Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse chapitre 23. Si vous voulez vous lever, on va lire la parole de Dieu. Il faut se souvenir que c'est Dieu lui-même qui parle. Il y a des choses à nous enseigner. Alors, essayons de retenir le message que Dieu veut nous donner. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. « Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, « Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Il leur parla ainsi. « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte devant mes yeux, « écoutez-moi et priez pour moi, Éphron, fils de Tsochar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » Éphron était assis parmi les fils de Heth, et Éphron le Héthien répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Éphron en présence du peuple du pays. « Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. » Et Éphron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 sicles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. » Abraham comprit Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 sicles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Éphron à Macpala vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans ses limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpala vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils d'Heth. Voulez-vous asseoir? Alors, ce matin, j'ai tout simplement intitulé le message « Jéhovah » ou « Yahweh ». On pourrait en discuter longtemps, mais... Vu que les anciens auteurs utilisent le mot Jéhovah, je continue d'utiliser le mot Jéhovah. Jéhovah rappelle trois faits à Abraham sur la mort. C'est comme si Dieu voulait dire, il lui rappelle que la mort fait partie de la vie. Il vient de perdre sa femme. Le père des croyants vient de perdre sa femme. Alors, le Jéhovah lui rappelle que la mort s'impose. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que normalement on s'attend, pas tout le temps, en tout cas, on ne peut jamais prédire avec précision, à moins d'exception. En général, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur vient enlever la vie à ses bien-aimés. Là, c'était l'épouse d'Abraham, donc l'épouse du père des croyants, donc c'était Dieu lui montre que la mort, c'est quelque chose qui s'impose, dans les versets 1 et 2. La deuxième idée qu'on va regarder, c'est que Jéhovah rappelle que la mort impose. La mort impose, elle nous impose des responsabilités, elle nous impose des devoirs. Et on va voir qu'Abraham s'est acquitté des devoirs qu'il avait envers son épouse. Et la dernière chose, on va regarder que Jéhovah rappelle que la mort suppose, et on regardera ça un petit peu dans les détails, les versets 19 et 20. La mort, c'est drôle que le message tombe sur ça ce matin, puis c'est pas volontaire, ça arrive comme ça, que la mort est une terrible réalité. On le sait tous, qui n'a pas perdu un être cher dans sa vie, surtout quand on est rendu à un certain âge. Moi, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu un frère, j'ai perdu une sœur, à part de ceux que... Ça, je parle des proches, là, mais j'ai perdu bien d'autres. Là. Alors, on connaît tous qu'est-ce que c'est la mort. Et c'est toujours quelque chose de terrible. Mais il faut se souvenir que c'est une conséquence du péché et que Dieu avait averti Adam et Ève que s'ils mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Alors, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, la mort va nous atteindre tous. Alors, il nous rappelle la mort brutalement, notre fragilité, n'est-ce pas? J'entendais tantôt René dire qu'un jeune homme, quarantaine d'années, il bûchait, un arbre tombe sur lui. Alors ça, c'est tu ne l'attends pas, là. Un peu comme quand on entend parler que quelqu'un est mort d'un accident d'automobile. Ça arrive sec, ou des gens qui meurent très jeunes pour toutes sortes de raisons, pour la maladie ou toutes sortes d'autres raisons. Alors Dieu remet en mémoire au Père des croyants que dans le fond, la mort, c'est une conséquence du péché, et qu'on soit croyant ou non, on n'y échappera pas. La douleur, la mort emporte toujours son cortège d'angoisse, surtout quand ça s'étire dans le temps un peu, là, des angoisses, de la douleur et des larmes. Tout ça, ça fait partie du cortège de la mort, qu'on pourrait dire. De plus, la Bible nous enseigne que la mort, telle qu'enseignée dans les Écritures, comporte trois facettes. La mort physique, ça, tout le monde va y passer. La mort spirituelle, c'est que tous ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu sont actuellement morts spirituellement et que s'ils décèdent dans cet état-là, ils vont aller dans le lac de feu pour l'éternité. Et la troisième, c'est la mort éternelle. Alors, si quelqu'un n'a pas reçu la grâce de Dieu et qu'il décède dans cet état-là, ben sa destinée, c'est la mort éternelle, l'enfer éternel, c'est quelque chose de terrible. Alors, la mort, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit éternelle, c'est quand même toutes des réalités qui sont terribles. La mort aussi est une merveilleuse réalité si nous sommes des élus de Dieu. Quand quelqu'un est sauvé, a reçu la grâce de Dieu, ses péchés sont pardonnés et Dieu lui promet la vie éternelle, dans un certain sens, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que la personne n'est plus sous l'influence du péché, il n'y a plus de péché qui l'entoure, elle ne voit plus de péché, il n'y a plus de larmes, elle vit dans la présence de Dieu. Et quand on vit dans la présence de Dieu, on vit dans la félicité, dans le bonheur et dans la joie éternelle. Pour elle, là, disons qu'on parle de Mme Giroux, tous ses soucis, elle ne voit même plus ce qui se passe. Dieu permet qu'il n'y ait plus rien qui la dérange. C'est le bonheur de découvrir le Seigneur et une découverte qui va être... Justement, ce matin, je relisais le chapitre sur le fait que Dieu, quand on va vivre dans sa présence pour l'éternité, on n'aura jamais fini de le découvrir parce qu'il est inépuisable de façon éternelle. Ça va être une découverte divine, on va apprendre à connaître Dieu et ça va prendre... L'éternité ne suffira pas, on n'ira jamais au fond parce qu'il n'y a pas de fond. Alors, ça nous donne-tu une idée jusqu'à quel point Dieu est grand et ceux qui sont déjà dans la présence de Dieu, ils sont dans le bonheur et dans la joie. Alors, ils sont vraiment dans la communion avec Dieu, dans la joie, l'harmonie, l'amour, l'exaltation, la lumière... Et ils vont découvrir les merveilles infinies de Dieu. Et, bien entendu, sont en repos, le repos éternel. Alors, on va regarder les deux premières idées. La première idée, c'est-à-dire les deux premiers versets, du chapitre 23. Ça dit « Or, Sarah a vécu 127 ans ». Alors, on voit que déjà, à l'époque, les gens vivaient un petit peu plus vieux que nous en général. Il y en a peut-être qui ont traversé, peut-être des modernes qui ont vécu jusqu'à là, là, mais il n'y en a sûrement pas beaucoup. C'est rare aujourd'hui, ceux qui dépassent 100 ans, très, très rare. Alors, elle a vécu 127 ans, et là, le Seigneur dit, ce sont là les années de la vie de Sarah. Et Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur sa femme et pour la pleurer. On voit ici une idée qu'on a parlé tantôt, c'est normal de pleurer. Jésus a pleuré. Nous, quand on perd un être cher, on pleure aussi, ça fait mal. Mais en même temps, quand on est chrétien, ça fait... C'est à la fois des pleurs et à la fois une joie de savoir qu'elle, elle est libérée de tout cela. Alors, bien sûr, on voit par cela que la mort s'impose inexorablement. La mort n'épargne pas aucun croyant. Alors, c'est Abraham, on dit de lui, c'est le père des croyants. Il perd son épouse. Alors, la mort ne l'a pas épargné. Abraham goûte le fruit amer de la perte de son épouse bien-aimée, puis il dit, il la pleura. Alors, Abraham était le père des croyants, et lui aussi, il a pleuré. Parfois, la mort est prévisible à cause de la maladie, mais aussi, elle arrive à l'improviste, comme on le sait tous dans nos vies. Des fois, quelqu'un meurt de façon vraiment inattendue. Autre chose, la mort s'impose inexorablement, mais la mort s'impose aussi miséricordieusement. Parce que la Bible parle de Sarah, pas juste dans ce passage-là, elle nous l'avait présenté un petit peu avant, mais même dans le Nouveau Testament, on parle de cette femme-là. Sarah, c'est une princesse distinguée, comme signifie son nom, princesse distinguée. Avant, c'était Saraï, maintenant, le Seigneur avait changé son nom pour l'appeler Sarah. Alors, dans Genèse 17, au verset 15 et 16, c'est là, c'est Dieu. Dieu dit à Abraham, quant à Saraï, ta femme, elle ne s'appellera plus Saraï, mais Sarah, qui veut dire princesse. Princesse est son nom. Et je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois de peuple sortiront d'elle. Alors on sait que à cause de Sarah, il y a eu les fils qui ont amené le Messie. Alors, elle a été un maillon qui a amené vers le Messie. Alors, rappelons que le Nouveau Testament parle aussi de Sarah comme une allégorie. Des fois, on se dit, c'est quoi ça, une allégorie? L'allégorie, c'est comme, ils prennent deux personnes, il va prendre Agar et il va prendre Sarah, et Paul va dire que c'est une allégorie parce que ça représente les Juifs de l'Ancien Testament, et Sarah représentait les Juifs, pas les Juifs, mais les croyants du Nouveau Testament, et il dit que c'est une allégorie, en parlant du passage qu'on vient de lire aujourd'hui. Alors, Paul voit une allégorie dans les deux femmes d'Abraham. Agar représente l'Ancienne Alliance, la Jérusalem juive, dont les fils étaient encore dans la servitude, et Sarah, par contre, qui est le type de la Nouvelle Alliance, de la Jérusalem d'en haut, dont nous sommes les libres enfants, nés selon l'Esprit. Alors, on va regarder quelques versets du Nouveau Testament qui parlent de Sarah, pour montrer que quand on dit que la mort s'impose miséricordieusement, la Bible parle de Sarah d'une manière, dans Hébreux chapitre 11, versets 11 et 13. Par la foi, au chapitre 11 de Hébreu, on l'appelle souvent le livre des héros de la foi. Dans le fond, l'auteur du livre d'Hébreu prend le livre pour démontrer qu'il y a eu, on l'appelle souvent le corridor. C'est un peu comme quand on passe d'un corridor et on voit des photos de tous ceux qui ont précédé. Là. Ben, Hébreu 11, c'est un peu ça, c'est le corridor des héros de la foi. Et le Seigneur parle dans Hébreu que Sarah était un héros de la foi, une héroïne. Par la foi aussi, verset 11, par la foi aussi, Sarah reçut la vertu de concevoir, et malgré son âge, elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 13, tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin, crus et embrassés, et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Sarah aussi, la Bible en parle comme étant une épouse bien-aimée. Même que le Nouveau Testament, dans 1 Pierre, propose aux femmes de l'utiliser comme modèle. C'est pas peu de choses. Quand vous avez quelque chose que vous avez fait dans vos vies, que les gens vous proposent comme étant un modèle, donc quelqu'un à imiter, le Seigneur, dans le Nouveau Testament, parle de Sarah pour inviter les femmes à lui ressembler. Ça dit dans 1 Pierre, chapitre 3, les versets 1 à 6. « Pareillement, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, s'il y en a même qui soient rebelles à la parole, ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite de leurs femmes. Lorsqu'ils auront remarqué votre conduite pure, dans la crainte, que votre parure soit non celle du dehors, l'entrelacement des cheveux, les ornements d'or ou l'ajustement des habits, mais l'homme secret du cœur, dans l'incorruptibilité de l'esprit doux et tranquille, qui est d'un grand prix devant Dieu. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. » Pas une idée très populaire aujourd'hui, hein, la soumission à son mari. « Comme Sarah, qui obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, et de laquelle vous êtes devenus les enfants. » Il parle des croyantes modernes de l'époque où 1 Pierre a été écrit. Mais bien sûr, ça implique toutes les femmes de toutes les époques, de tous les temps, où il invite les gens, les femmes, à ressembler à Sarah. Il dit, « Comme Sarah qui obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, et de laquelle vous êtes devenus les enfants, en pratiquant le bien et en ne craignant aucun sujet d'épouvante. » Donc, Sarah est présentée ici comme un modèle, une modèle à imiter, soumise à son mari, vivant chastement et vivant aussi respectueusement. Elle avait un cœur et un esprit pur, doux et paisible. Et bien sûr, Paul dit, par le Saint-Esprit, parce que les Écritures sont inspirées, que les femmes devraient s'inspirer du comportement de Sarah pour ressembler à Sarah dans leur vie. Bien sûr, ça dit aussi, il y a une chose importante, dans le verset 4, ça dit, d'un esprit doux et tranquille qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors, c'est des choses que Dieu approuve. Elle était approuvée de Dieu dans son comportement, d'après ce qui est dit dans le texte. Chose à remarquer aussi, c'est qu'Abraham, quel âge qu'il avait, au moment qu'elle, elle avait 137, si lui avait 127, il avait 10 ans, plus vieux qu'elle. Donc, quand que sa femme est décédée, il avait 137 ans, Abraham. Et donc, il lui reste encore 38 ans à vivre, parce que la Bible nous dit qu'il est mort à 175 ans. Alors, la Bible nous apprend qu'il s'est remarié. Souvent, on pense pas à ça. Abraham s'est remarié. Sa première femme est morte, il s'est remarié. Il s'est remarié et eut encore 6 autres enfants. Genèse 25, versets 1 à 4. Souvent, on ne sera pas pourtant à dire, il y a eu deux femmes, Abraham. Ben oui, il y en a eu deux. Or, Abraham prit une autre femme nommée Kétura, qui lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishak et Shua. Et Jokshan engendra Sheba et Dédan. Et les enfants de Dédan furent les Ashurim, les Letushim et les Lehumim. Et les fils de Madian furent Épha, Épher, Hanok, Abida, Aldaa, tous ceux-là étaient enfants de Kétura. Donc, il s'est remarié, puis il a eu 6 enfants avec sa deuxième femme. Sarah, les Écritures en parlent aussi comme d'une mère regrettée. Genèse, chapitre 24, verset 67. Alors, Isaac mena Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit Rebecca, et elle fut sa femme, et il l'aima. Et Isaac se consola après la mort de sa mère. Donc, s'il se consola après la mort de sa mère, c'est parce que sa mère était une femme regrettée, une mère regrettée. Donc, en trois choses, c'était une sainte éminente, selon les Écritures. Elle est dans le corridor des héros de la foi. Elle était aussi une épouse bien-aimée que les Écritures, dans le Nouveau Testament, invitent les femmes à imiter le comportement de Sarah. Et aussi, elle était une mère regrettée. Alors, la troisième idée qu'on va regarder pour le premier point, c'est que la mort s'impose de façon providentielle. La seule femme morte des Écritures dont l'âge est mentionné, c'est Sarah. Alors, Sarah est la seule femme de la Bible dont l'âge du décès est mentionné. Ça se dit qu'elle avait 127 ans. La mention de son âge avait sans doute pour but de l'honorer et d'affermir la certitude des miracles qui la concernaient. Il ne faut pas oublier une affaire, le Seigneur lui avait dit qu'elle aurait un enfant et qu'elle avait 90. Puis lui avait 99, ou presque 100 ans, au moment qu'elle a reçu la nouvelle. Donc, il y avait 10 ans de différence. Te faire dire à 90 ans que tu vas avoir un bébé, disons que ça a dû créer un petit problème dans son esprit. Alors, elle le crut par la foi. Alors, par la foi, elle a cru que Dieu était capable de donner un enfant à une femme de 90 ans. Alors, le fait qu'elle est morte à 127, c'est sans doute la volonté divine de savoir que quand Dieu fait des promesses, il l'accomplit. Alors, elle est morte en Canaan. C'est important de regarder l'endroit où elle est morte aussi, parce qu'elle est morte dans l'exercice de la foi, à Hébron. Et le mot Hébron signifie communion fraternelle. Alors, elle est morte dans un endroit en paix. Donc, elle reconnaissait aussi la terre promise comme étant la sienne. Et elle reconnaissait également son espérance en la résurrection des morts. On voit dans Hébreux, chapitre 11, versets 13 à 16. Intéressant, ça, parce que ça dit, « C'est selon la foi que tous moururent, sans avoir reçu l'effet des promesses, mais après les avoir vus de loin et crus et salués, et après avoir fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie, et en effet, s'ils avaient eu le souvenir de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils aspirent à une meilleure patrie, c'est-à-dire à une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a point honte d'eux, ni de s'appeler leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Le fait que les promesses que Dieu leur a faites, elle ne les a pas vues de son vivant. Mais le fait qu'elle sache que, oui, il va en avoir une patrie céleste, c'était une démonstration de l'authenticité et de la solidité de sa foi. Alors, les Écritures parlent de Sarah avec des mots élogieux, plus particulièrement dans le Nouveau Testament. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est que Jéhovah rappelle que la mort impose. Quand quelqu'un meurt dans notre entourage, elle nous impose des choses. Une des choses qu'elle nous impose, c'est, j'appellerais ça de la modération. Si on regarde le modèle, si on regarde l'exemple que Abraham nous donne, dans le verset 3 du chapitre 23. « Et Abraham se leva de devant son mort. » Et quand on regarde les commentateurs, ils disent que se lever de devant son mort, c'était comme une espèce de volonté de ne pas se laisser écraser. Parce que je l'ai entendu souvent dans ma vie, des gens me dire qu'après qu'il a vu soit sa femme mourir ou soit un de ses enfants mourir, il y en a, on dirait qu'ils ne sont pas capables de gérer ça. Tellement c'est fort, ça les écrase. Ici, on voit Abraham se leva devant son mort. C'est vraiment l'idée qu'il y a eu assez de force, de maîtrise de soi, malgré sa douleur, d'assumer qu'il y avait des devoirs que tout cela lui imposait, qu'il se devait de les accomplir. Et ça dit, il parla au fils de Heth en disant, une traduction littérale pourrait se lire comme suit, de ce verset-là. Abraham se leva d'au-dessus de son mort. L'idée, c'est comme quand tu es au-dessus du mort, on dirait que tu serais porté à vouloir rester là. J'ai entendu des cas, là, je me souviens de quelqu'un qui m'a raconté je pense que c'était son épouse qui était mort. Il était des mois pas capable de parler, pas capable de se lever, pas capable de se maîtriser du tout. C'était une tristesse qui l'écrasait. Mais ici, on voit le père des croyants qui nous donne l'exemple que quand la mort s'impose, ça fait mal, on pleure, mais qu'on a le devoir de se modérer un petit peu. On a un certain contrôle là-dessus. Je dis bien un certain. Alors, la mort impose une modération, verset 3. La mort impose une obligation, dans le verset 4. Parce qu'il dit, « Je suis un étranger et un autre chez vous. Donnez-moi chez vous la propriété d'une sépulture pour que j'enterre mon mort devant moi. » Dieu lui avait, pas, il avait dit qu'il y aurait la terre promise, hein? Mais il ne l'a pas vu. Tout ce qu'il y a eu de son vivant, là, c'est une grotte puis un endroit pour enterrer les morts. La foi là, qu'il y avait, là, que oui, Dieu, même si moi je ne le vois pas, les générations qui viennent, eux, vont le voir. Alors, c'est une démonstration de foi. Alors, c'est vraiment, il se rendrait compte qu'il y avait des obligations envers le mort. Bon, quelqu'un est mort, on ne le laisse pas là. Faut faire quelque chose avec. Alors, justement, il est allé voir le peuple du pays dans lequel il vivait et il a demandé d'acheter un terrain pour enterrer sa femme. Alors, Abraham se rappelle qu'il est un étranger et un pèlerin sur la terre. Et il exprime son besoin d'avoir un endroit pour enterrer son épouse. Donc, il y a des obligations envers le mort. Il y a aussi des obligations envers lui-même. Donc, de demander et d'écouter la réponse. Parce que ça dit dans le verset 5 et 6, « Et les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celle de nos sépultures que tu choisiras. Aucun de nous ne t'interdira sa sépulture pour y enterrer ton mort. » Alors, la réponse qu'il reçoit est immédiate, est respectueuse aussi, est flatteuse aussi, parce qu'elle lui dit, « Écoute, prince de Dieu. » Ils sont conscients que c'est un homme béni de Dieu. Et aussi, à première vue, elle semble généreuse. Mais quand on lit les commentateurs qui savent la valeur de l'argent de l'époque et qui connaissent les coutumes des Orientaux, c'est pas si généreux que ça, on va le voir un peu plus loin. Alors, on voit que Abraham était capable de s'exprimer à un peuple dans lequel, parmi lequel il vivait, mais de le faire avec les civilités que les Orientaux. Les Orientaux, ils ne travaillent pas, ils ne pensent pas comme nous. C'est ça, quand on lit les Écritures, c'est les commentateurs qui nous font penser à ça des fois. Alors, Abraham se leva et se prosterna devant le peuple. Se prosterna devant le peuple, pourquoi il se prosterne devant le peuple? Mais on voit que c'était une époque, à l'époque, c'était une coutume de dire « oui, j'apprécie votre offre » là et tout ça. Et devant le peuple du pays, devant les fils de Heth, il parla avec eux en disant. Alors, Abraham est respectueux des us et coutumes qu'on pourrait dire du pays. Versets 8 et 9. « Si c'est votre volonté que j'enterre mon mort de devant moi, écoutez-moi et intercédez pour moi auprès d'Éphron, fils de Tsokar, et qu'il me donne la caverne de Macpéla qui est à lui, qui est au bout de son champ, qu'il me la donne pour sa pleine valeur comme propriété de sépulture au milieu de vous. » Donc, on voit que il demande aux gens, vendez-moi un terrain. Et il leur offre de payer la pleine valeur de la propriété de la sépulture. Donc, il s'exprime à eux avec courtoisie. Comment on voit la courtoisie là-dedans? C'est qu'on la voit au fait qu'il passe par un intermédiaire. C'était la coutume des Orientaux. Tu ne faisais jamais les choses directement. Il dit à un, intercède pour moi auprès des fronts. Alors, c'était une façon, les Orientaux ont, quand ils règlent des choses, de ne pas y aller direct. Alors, ils respectent les us et coutumes du pays. Alors, ils s'expriment à eux avec courtoisie et ils respectent la coutume des Orientaux de transiger par des intermédiaires. Nous, on n'a pas cette façon d'agir-là, mais eux, c'était comme ça, à cette époque-là. Alors, dans les versets 10 et 11, on voit aussi qu'il cherche à garder son bon témoignage auprès de tous ces gens-là, qui étaient des inconvertis. Il cherche à garder son bon témoignage. Parce que là, il leur dit, versets 10 et 11, « Or, Éphron était assis au milieu des fils de Heth, et Éphron, le Héthien, répondit à Abraham, les fils de Heth, écoutant, ainsi que tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, en disant... » On se rappelle qu'à l'époque, la façon de faire des contrats, c'était pas passer chez le notaire. C'était à la porte de la ville. Il y avait un endroit, un peu un endroit public où les gens se rassemblaient. Et quand il y avait un contrat, c'était verbal. mais il fallait qu'il y ait des témoins. C'est pour ça que quand il achetait quelque chose comme ça, il fallait qu'il y ait des gens qui entendent « oui, je le vends, oui, je le vends pour tel prix » et des témoins qui étaient au courant que l'autre avait payé. Alors, c'était comme, ça dit dans le verset 11, « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ du pays. Je te donne le champ et la caverne qui y est, je te la donne. Je te la donne aussi aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. » Abraham refuse l'offre d'apparence généreuse parce que les Orientaux ont cette caractéristique-là aussi qui font les choses un peu, je dirais, en québécois, on appelle ça du show-off. On prend l'air, tu la donnes, mais dans le fond, ils ont comme une idée derrière la tête. OK, en public, ils veulent montrer qu'il y a... Mais dans le fond, le fait qu'il ait accepté 400 sicles d'argent, et d'après les commentateurs, la valeur de l'endroit ça dépassait largement le montant que normalement il aurait dû payer pour ça. Alors, ça avait l'air généreux comme ça, devant le monde, de dire « je te donne en terre ton mort ». Mais après, tout de suite après, quand Abraham il a dit « je vais te donner tes 400 sicles d'argent » dont tu as mentionné, ça démontrait. Alors, prudence oblige, versets 12 et 13, ça dit « et Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Et il parla à Éphron devant le peuple du pays qui écoutait et dit « cependant, écoute-moi, je te prie, je te donne l'argent du champ, reçois-le de moi et j'y enterrerai mon mort. » Alors, Éphron, dans le verset 14 et 15, et Éphron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi. » C'est là qu'on voit, il dit, « une terre de 400 sicles d'argent entre moi et toi. » Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que cela? « Enterre donc ton mort. » Mais il prend à peine de mentionner le prix. Tu sais, c'est comme, « que c'est quoi, ce 400 sicles d'argent entre moi et toi? Mais enterre donc ton mort. » Donc, il a dit quand même en public, le montant que je te l'avais, là, c'est 400 sicles d'argent. Alors, le prix des 400 sicles d'argent est estimé hautement exagéré par les commentateurs qui connaissent la valeur de l'argent de l'époque, la valeur des terrains de l'époque, des affaires-là. Alors, mais spiritualité oblige, comme on dit, quand on dit que la mort nous impose des devoirs. Donc, quand tu es spirituel, tu n'as pas le temps de dire, ben là, tu es un méchant, de me vendre ça à ce prix-là, ça n'a pas de sens. Il a accepté de payer le plein montant de manière à pouvoir enterrer son épouse convenablement. Alors, dans le verset 16 à 18, ça dit, « Abraham entendit Éphron. » Donc, autrement dit, il a compris le message. Tu dis que tu veux m'adonner, mais tu mentionnes le prix en public que tu veux avoir. Et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit, parce qu'à l'époque, c'était de l'argent, que ça fallait que ça se pèse, c'était métallique, c'était pas des billets comme aujourd'hui. En présence des fils de Hoth, 400 sicles d'argent ayant cours chez le marchand. Et le champ d'Éphron, qui est à Macpéla, devant Mamré, le champ, la caverne qui y était, et tous les arbres qui étaient dans le champ, et tous les confins de l'entour, furent assurés en propriété à Abraham, en présence des enfants de Heth, devant tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Donc, il avait acheté de la façon dont ça se faisait à l'époque, devant témoins. Alors, ici, on voit vraiment l'attitude spirituelle du Père des croyants, qui est prêt à sacrifier, à donner un montant pour un terrain qui sait que ça ne vaut pas ça, mais pour garder la paix avec les gens, il paye le plein montant. Alors, il est prêt à garder la paix et l'humiliation. Autrement dit, des fois, quand tu te fais avoir, tu t'en rends compte, puis tu décides de l'acheter pareil, c'est pas parce que tu ne t'en es pas rendu compte. Le but, c'était de ne pas être un mauvais témoignage auprès de ces gens-là. Donc, je vais te payer le prix que tu veux, même si c'est hautement exagéré, à quelque part. Alors, Abraham témoignait aussi, ainsi, de sa foi en la résurrection future, de sa foi en l'Alliance, qu'il posséderait un jour la terre que Dieu lui a promis. Dieu lui avait promis une terre. Voyez-vous, il se ramasse à la fin de sa vie avec une petite caverne, puis une place, c'est un peu comme s'il dirait, tu as eu un lot. C'est comme un peu comme on achète un lot, il y avait un lot. Et c'est ça qu'il y a eu comme terre promise. Alors vraiment, ça prenait un homme qui avait beaucoup de foi pour croire que Dieu, éventuellement, accomplirait la promesse qu'il lui a faite, mais que lui, il ne le verra pas de son vivant. La seule chose qu'il y a eu comme terrain, comme terre promise, c'était ce petit coin de terrain-là. Et on sait que plus tard dans les Écritures, on va voir que non seulement ce lieu-là a servi de sépulture à son épouse, mais aussi qui va servir pour sa propre sépulture, Abraham, pour celle d'Isaac, pour celle de Rebecca, pour celle de Jacob et celle de Léa. Des fois, on ne pense pas à ça, du coup, là, mais il a acheté ça, mais c'était un endroit qu'il voulait avoir pour enterrer les morts, les croyants qui avaient, il avait acheté un terrain uniquement pour ça, une grotte. À cette époque-là, ça se faisait dans les grottes. Troisième point qu'on va regarder, Jéhovah rappelle que la mort suppose. Suppose l'espérance. Parce que dans le texte, ça dit dans le verset 19, et après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mamré, qui est Hébron, au pays de Canaan. Vous remarquerez dans le texte qu'il y a la mention de quatre fois enterré, hein? Enterré, 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 enterré. Ici, il y a un message, c'est à nous de le comprendre. Abraham enterre sa femme dans le pays de Canaan, la terre promise, et sa foi en la résurrection et en la possession future de la terre. Verset 20. Donc, la mort suppose l'espérance, que tu sais qu'il va y avoir d'autres choses qui vont revenir plus tard, et suppose aussi la fidélité. La propriété sépulcrale deviendra donc un sépulcre, comme on vient de le dire, pour lui-même, pour Isaac, pour Rebecca, pour Jacob et pour Léa. La mort suppose aussi le souvenir. Pourquoi on dit ça? Parce que quand on arrive dans le Nouveau Testament, on connaît toute l'histoire de Étienne, à un moment donné, qui a prêché devant le peuple d'Israël et il a ramené des choses aussi vieilles que ça, là. Alors, le souvenir. Dans Actes 7, versets 2 à 7, on a le témoignage d'Étienne qui parle de ces faits-là. Et il répondit. On sait que ça lui a coûté de se faire lapider, là, de parler de même au peuple d'Israël. Ils n'ont pas aimé ça, de se faire dire ça. Et il répondit, « Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il demeurât à Charan. Et il lui dit, « Sors de ton pays et de ta parenté et viens dans le pays que je te montrerai. » Alors, étant sorti du pays des Chaldéens, il vint demeurer à Charan. De là, après que son père fut mort, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Autrement dit, ils ont fini par l'avoir, la terre d'Israël, comme Dieu les avait dit. Et le verset 5, c'est important, parce que ça dit, où il ne lui donna aucun héritage, non pas même un pied de terre. Il y a eu une caverne, c'est tout ce qu'il y a eu. La terre promise, il ne l'a pas vue, lui, personnellement. Il l'a eue par la foi. Mais il lui promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Et Dieu, parlant ainsi, ta postérité habitera dans une terre étrangère pendant 400 ans, et on la réduira en servitude, et on la maltraitera. Mais je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis, dit le Seigneur, et après cela, ils sortiront et me serviront dans ce lieu. Alors, on voit que l'histoire se continue vers l'apparition éventuelle du Messie, mais ça a pris beaucoup de temps. Quelles sont les applications qu'on peut faire de l'étude brève de ce texte-là, qui est très riche? La première, c'est que la mort nous rappelle douloureusement notre fragilité. On est tous fragiles. Et quand on n'a jamais pensé à mourir, j'ai pas pensé souvent, mais récemment, là, j'ai vraiment pensé, là. Tu t'arrêtes, puis tu es couché dans ton lit, puis tu te dis, peut-être que tu es sur le bord de venir me chercher, Seigneur. C'est, comme on dit en québécois, c'est tripant de savoir que tu es sur le bord, là, que tu pourrais traverser là. C'est très tripant. Et ça nous montre qu'on est fragile. La seule chose à faire dans ce temps-là, quand le Seigneur te montre ta fragilité, c'est de dire, Seigneur, tu es le maître, tu es le créateur, tu es le souverain. C'est toi qui contrôles les temps, c'est toi qui contrôles le nombre de jours. La Bible dit même que le Seigneur a déterminé le jour où je vais mourir. Alors, moi, peut-être que je vais mourir juste dans 20 ans. Peut-être que je vais mourir aujourd'hui aussi. Je ne le sais pas. Fait que j'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux. Si tu penses que c'est là, prends-moi là. Puis si tu penses que je peux faire quelque chose pour toi encore quelques années, fais que ta volonté soit faite. Bon, il n'y a pas d'autre chose à faire que ça. On est fragile. qu'on peut partir rapidement et d'une façon tellement inattendue que des fois, on reste surpris un petit peu. Alors, il nous montre notre fragilité et il nous montre qu'on est des mortels, que le Seigneur va venir un jour aussi nous visiter. Alors, méditons. Les Écritures nous invitent à méditer sur notre fragilité, se rendre compte qu'on est fragile, qu'on peut partir rapidement et qu'on peut partir d'une façon complètement inattendue. Nous, on est venu ici en auto, on se met à descendre en tenant des mégantiques, puis paf, ça y est, tu meurs là. Si t'es pas prêt, là, c'est de valeur, mais ta destinée éternelle est scellée. Alors, vaut mieux y penser pendant qu'on est vivant, comme on dit. Comme je pense, ça dit dans l'Ecclésiaste, vaut mieux un être humain vivant qu'un chien mort, juste comme ça. Alors, quand on est vivant, il y a encore de l'espoir. Mais quand on est mort, ta destinée est scellée, où tu vas en enfer, où tu vas au ciel, mais c'est ça. Et le texte nous rappelle aussi que la mort impose des devoirs et des obligations. Dès que quelqu'un décède, celui qui reste, là, il sait qu'il y a plein de choses à faire. Faire enterrer son mort, choisir des tombes, faire exécuter le testament et plein d'autres bébelles. On sait, quand on traverse ces moments-là, on voit comment il y en a du papier. Alors, quelque part, il faut être prêt. Plus on est prêt, plus c'est facile pour ceux qui restent. Moins on est prêt, plus c'est pénible pour ceux qui restent. Deuxième leçon spirituelle que je pense que le texte nous enseigne, c'est que la mort rappelle heureusement notre espérance. On sait que si on crève, oui, on va y aller en terre, mais peut-être qu'on va être dans la génération où on ne mourra pas. Moi, j'ai souvent rêvé à ça, me disant, maman, j'aimerais-tu ça, moi, que le Seigneur revienne, puis qu'il te prenne, puis tu es vivant, puis tu montes avec lui, puis tu ne connais pas la mort physique. Il va y en avoir une génération qui va connaître ça. Est-ce que ça va être nous? Moi, je commence à y croire sérieusement, parce que je crois très sincèrement que le retour du Seigneur est proche. Les signes se multiplient autour de nous. Alors, il faut être prêt. Alors, la mort nous rappelle heureusement notre espérance et notre bonheur futur si on est prêt et si on a mis notre foi en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, soyons pleinement persuadés que le Seigneur accomplit toujours pleinement ses promesses, quelles qu'elles soient. Alors, bénissons notre grand Dieu, maître de la vie et de la mort. Adorons-le, exaltons-le et louons-le. Amen.